Bras zéro, brassage radio. La chapelle, à Toulouse, c'est un lieu important. Toujours disponible pour une assemblée, une rencontre ou une fête de soutien. Un lieu d'expérimentation sociale, politique et culturelle, installé à deux pas du centre-ville, dans une chapelle déconsacrée depuis 1993. Au fil des années, nous y avons organisé tout un tas de choses. En particulier, à Bras zéro, quelques marathons radiophoniques. Aujourd'hui, il est possible de l'acheter. Alors, même si on aurait préféré la squatter jusqu'à la mort de la propriété privée, on tente le coup de l'achat collectif pour une propriété d'usage. Une campagne de financement est lancée, et à cette occasion, on invite des membres de l'atelier idéal pour nous raconter tout ça.
Alors, pour commencer, peut-être si vous voulez bien vous présenter, avec nom, prénom, date de naissance, profession des parents. Surtout, comment vous avez envie qu'on vous appelle, et aussi peut-être c'est quand la première fois que vous êtes arrivé à la chapelle, quels petits souvenirs vous avez et à quel moment vous y êtes investi.
Moi c'est Aurel. Alors la chapelle, je l'ai découverte en 2001. C'était une des premières années. Où je débarquais à Toulouse et il y avait une conférence, une soirée, en tout cas autour de la question des personnes à la rue et de la question d'être sans domicile à Toulouse face à une grande répression qui avait eu lieu sur les personnes sans domicile à cette époque-là, qui continue toujours d'ailleurs. Et voilà comment j'ai connu en première intention la chapelle. Du coup, je me suis dit, tiens, ça a l'air d'être un chouette endroit. En tout cas, ça m'intéressait et ça attisait ma curiosité. J'ai commencé à fréquenter le lieu en fonction au gré des événements qui s'y produisaient. J'ai, en discutant lors d'une soirée, j'ai rencontré des membres du collectif qui s'appelait La Relâche. Qui m'ont dit, viens si ça t'intéresse d'organiser avec nous les soirées de la relâche. Et donc, j'ai commencé à intégrer ce groupe-là et à y participer avec les copaines à l'organisation de ces soirées sur le dimanche et sur le lundi soir. Ça a duré quelques années. Dans ce groupe relâche, il y avait des membres de l'atelier idéal à l'époque. Qui par la suite sont venus me voir pour me proposer d'intégrer l'atelier idéal et de venir aux réunions en observation dans un premier temps pour voir si ça pouvait m'intéresser de rester dans ce groupe-là qui lui était plutôt sur la gestion du lieu mais aussi la question des demandes extérieures, des événements, des travaux. Et puis je l'ai intégré aussi à une période un peu compliquée où c'était l'exclusion d'un membre de l'atelier idéal. Donc ça a été pas simple pour moi cette période-là et à la fois ça m'a permis d'observer un peu les jeux des uns et des autres dans ce groupe en autogestion. Voilà.
Moi c'est Baptiste, ça va faire depuis à peu près 8 ans que je connais la chapelle. Et je l'avais connu un peu avant, mais c'était un peu au début de où j'ai commencé à me politiser sur Toulouse. Et par la suite, j'ai continué à la fréquenter. Je suis rentré dans l'atelier idéal. En fait, c'est parce que j'aimais bien le lieu. C'était un endroit que je trouvais chouette. Et un des rares endroits à Toulouse où on arrive à se sentir à peu près bien. J'ai vu qu'il y avait des appels pour les chantiers. Comme je suis ouvrier dans le BTP, je me suis dit pourquoi pas rendre mes compétences sur ce lieu-là. Et petit à petit, c'est comme ça, à force de venir au chantier, ils m'ont vite invité un peu parce qu'ils étaient un peu perdus des fois dans ces domaines-là. Donc on m'a vite invité à l'atelier idéal pour au début vraiment plus aider sur les parties vraiment chantier. Et maintenant, je fais partie de l'atelier idéal et je gère surtout, je me suis beaucoup occupé et investi au niveau des chantiers de la chapelle.
Moi, c'est Clara. C'est un petit peu la même manière. J'ai été d'abord, je pense, usagère de la chapelle, étant donné qu'il y avait pas mal de collectifs que je connaissais qui pouvaient du coup organiser des événements dans le lieu. Donc, j'ai commencé à fréquenter, à aller à quelques soirées. Et du coup, connaissant Baptiste aussi, il y a eu un gros moment de chantier participatif, notamment sur la toiture basse. Donc, j'ai commencé par là. J'ai commencé à connaître bien la chapelle parce que j'étais sur son toit. Et ensuite, petit à petit, de fil en aiguille, c'est un peu pareil. Je me suis intéressée au fait de peut-être rejoindre plus l'organisation du lieu et du coup plus comprendre, on va dire, les dessous de tout ce qui se passait à la chapelle. Et en plus, du coup, avec la visibilité, la question des travaux aussi, qui était quand même un moment où on recherchait pas mal de monde pour porter un peu tout ça.
Et toi,
Ariella ? On joue nous aussi. Alors, je m'appelle Ariella. Moi, j'ai connu la chapelle. Je crois que c'est un des premiers lieux que j'ai connu en arrivant à Toulouse, avec le Clan D, puisqu'il est encore ouvert à cette époque-là. Pareil, j'ai été usagère pendant très longtemps. Et puis, petit à petit, en faisant des trucs, j'ai participé à organiser quelques événements, notamment avec de la radio, mais pas que. Et voilà, et en fait, petit à petit, je crois que c'était quand j'habite encore à Toulouse, c'est un des seuls endroits où je sortais. voilà. Et toi ?
Moi, j'ai été pour la première fois à la chapelle en 95 pour faire un concert pour le collectif Chiapas. Voilà. Mais je me suis jamais investi à la chapelle. Quoi, j'ai organisé des trucs, mais je n'ai jamais passé de l'autre côté du miroir. Voilà. Et ben d'ailleurs, pour savoir un peu comment ça se passe à la chapelle, et ben dans les archives, il y avait Arte Radio, Faido Sonore, Charlotte et Benoît qui avaient fait un son à la chapelle, et on va entendre la chapelle, quelques voix, et un petit peu de l'ambiance de ce lieu.
Ça fait 22 ans qu'on est toujours en squat, en fait. On a changé de propriétaire, il y a eu plusieurs luttes pour garder ce lieu. Et on est toujours en fait en lutte. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on a eu des petites craintes en début d'année concernant l'avenir du lieu, vu que le lieu maintenant appartient à la mairie.
Tu te poses à une table, et puis d'un coup, y a quelqu'un qui vient, qui demande s'il peut s'asseoir à côté de toi, mais tu ne sais pas qui c'est. Et moi, je trouve ça super, en fait, parce que... je pense qu'il y a des gens, de moi-même, je n'irai pas forcément leur parler.
Donc c'est une vraie chapelle, hein. Avec la nef au bout, et derrière, donc il y a un petit bar en rentrant à gauche, la chaire donc, qui est toujours là, une grande scène dans le fond.
Donc je suis venue à une réunion, et puis voilà, et puis j'y suis toujours, quoi.
Vous amenez ça dans la salle ?
Oui. Chaud.
C'est une salle assez grande qui peut contenir, je sais pas, 200-300 personnes et qu'on essaie d'améliorer pendant ces 22 ans. Donc on a petit à petit, on a caché les fenêtres, petit à petit on a mis des rideaux, petit à petit on a mis des barres de projo, on a trouvé des projos à droite à gauche, on les installe petit à petit. Et tout ça, on a aussi la chance d'avoir eu le temps de faire ça. Il y a plein de squats qui n'ont tout simplement pas le temps parce qu'il reste 3-4 ans. Nous, ça fait 22 ans, donc on a vraiment le temps de construire quelque chose. Après, on est toujours parti de l'idée qu'on serait là à vie.
À vie, quoi. C'était en 2015 et il s'en est passé des choses depuis 9 ans déjà. Et est-ce qu'on peut refaire un peu l'histoire de ces 9 ans alors que donc Thomas se sont dit qu'il y avait un peu des soucis. La mairie voulait peut-être récupérer le lieu. Est-ce qu'on arrive à refaire un peu cette histoire depuis ce moment-là?
Alors oui, je vais essayer en tout cas de retracer un peu cette histoire. En 2015, la mairie de l'époque à Toulouse décide de récupérer la chapelle pour ça fait suite à une lutte quand même de l'archevêché qui voulait vendre ce lieu à une association d'intérêt général, qui n'était pas l'atelier idéal, mais qui était une autre association, Habitat et Humanisme, sur lesquels on a fait une lutte collective pour dire mais en fait nous aussi on est d'intérêt général et donc vous mettez en concurrence deux projets sur des notions sociales et de bien commun, c'est dégueulasse et nous on est là depuis 22 ans, on a toute légitimité à rester sur ce lieu. Pour nous sortir de... Enfin, en tout cas, pour amener une conclusion à cette lutte-là, la mairie, à l'époque, a préempté le lieu. En concertation, il y avait une élue qui était venue nous voir, a préempté le lieu pour le sortir de cette vente et a proposé à l'atelier idéal, en tout cas à l'association La Chapelle qu'on a créée pour l'occasion, de signer un bail emphytéotique de 40 ans. Pour permettre au collectif et aux élus aussi d'avoir un temps de discussion et de réflexion pour voir un peu comment on pouvait sortir de tout le monde un peu de tout ça dans une issue favorable. Donc on a créé l'association La Chapelle à ce moment-là parce qu'on avait déjà eu des stratégies un peu collectives à cette époque-là, de séparer cette question de l'usage du lieu de sa propriété. Et donc, le fait de signer un bail emphytéotique qui dure 40 ans, ça nous permet d'avoir l'assurance d'avoir quand même les droits d'être propriétaire sur le lieu pendant 40 années. Mais on ne sait jamais... en fait... Ça a posé quand même plusieurs questions au collectif de l'époque, puisque ça, c'était aussi tout un changement de sortir du squat, quoi. Et ça a posé de longs débats, mais vraiment de longs débats entre nous, parce qu'il n'y avait pas d'évidence pour les uns et pour les autres de cette notion de qu'est-ce que ça veut dire de sortir du squat, qu'est-ce que ça veut dire de signer ce bail emphytéotique, dans quoi on s'engage et qu'est-ce que ça va modifier dans nos pratiques collectives et dans notre rapport au lieu. Et puis finalement, dans les échanges qu'on a pu avoir, on y est allé. On est allé sur la voie de la légalisation quelque part. C'est un peu ça, ce qui a posé quand même pas mal d'enjeux politiques pour nous en interne. Tout en se disant que, en ayant cet idéal de se dire qu'on pourrait continuer comme on avait toujours fait, dans l'usage de ce lieu, sans se mettre la pression de répondre à telle ou telle commande publique. Mais malgré tout, au jour d'aujourd'hui, le constat que j'en fais, c'est que on a signé ce bail emphytéotique et on s'est aussi engagé dans cette mise aux normes. Et cette mise aux normes, on s'y engage du lieu qui est une condition en fait qui a été négociée entre la mairie et nous pour pouvoir lever l'option d'achat, de rachat de ce lieu, une option de rachat qu'on a fixée à un prix négocié comme fixe. Pendant toute la durée de la mise aux normes, qui a été évaluée à 5 ans et qu'on a réussi à prolonger. Mais en tout cas, ça nous a mis, en tout cas dans le collectif, une forme de pression temporelle, quelque part, pour faire ces travaux, avancer sur ces travaux. Et ça nous a mis une pression temporelle parce que, collectivement, on s'est dit, en fait, il faut sortir ce lieu des mains de la mairie malgré tout. Le bail emphytéotique, il nous protège pendant 40 ans, mais on ne sait pas dans 40 ans qui aura la mairie de Toulouse, quel bord politique. Et puis, en fait, on s'en fout du bord politique. C'est juste ce lieu, c'est ce qu'on appelle pour nous une propriété. La chapelle est faite par l'usage qu'on en fait. C'est son identité. Il y a aussi une charte qui sert de base sur l'identité du lieu et qui va servir de qui on coopte dans l'usage de ce lieu. Ce rachat, il était important pour nous et ça nous a posé question aussi de voir la pression que ça nous mettait à si peu nombreux pour arriver à faire cette mise aux normes. Ça a posé des doutes au sein du collectif, ça a pu poser des points de tension, des points de découragement aussi. Mais finalement, il y a toujours eu... une à deux personnes dans le groupe ou extérieures au groupe qui étaient là pour un peu remotiver et remettre un peu insuffler de une dynamique pour que ça perdure. Parce que ce lieu, il a une histoire qui nous traverse, qui est avant nous, qu'on construit dans le présent et qui sera construite après nous. Et pour ce faire, ça nous semblait important d'arriver à ce rachat collectif et de maintenir cette propriété d'usage.
Mais du coup, il y a cette période de travaux qui s'ouvre, cette mise aux normes. Là, vous deux, vous arrivez sur les travaux, au final, hein, c'est ce que vous avez raconté tout à l'heure. Justement, qu'est-ce que vous percevez quand vous arrivez de ça? Parce que vous arrivez après cette espèce de crise, la décision a été prise d'une certaine manière. Justement, avec vos yeux, là, dans quoi vous arrivez à ce moment-là? Qu'est-ce que vous saisissez de ces débats? Est-ce que vous en saisissez quelque chose? Ou est-ce que vous avez quelque chose à en dire de ce moment-là d'arrivée, quoi?
Ben oui, moi, j'arrive vraiment après cette signature du bail de 40 ans. J'arrive un peu après les débats, comme tu viens de le dire. Mais en même temps, ça me paraissait important. La vision qui est apportée par le collectif qui m'a été montrée du rachat et de la remise aux normes, je l'ai trouvée intéressante dans le sens où, pour le coup, la mise aux normes, on pouvait vraiment s'y atteler avec un intérêt plus que on remet l'eau, on remet vite fait les lecs, c'est un squat, donc on ne sait pas trop si dans 2 ans on doit se faire dégager ou pas, donc on le fait à la va-vite, il faut que ça tienne, mais dans 2-3 ans, c'est pas périn. Là, au moins, on a pu s'amuser. On a pu faire les choses bien, on a pu faire les travaux proprement, je trouve. Et ça, en fait, le fait de ce rachat-là, ça permet vraiment d'enlever cette épée de Damoclès qui est au-dessus de la tête, qui bloque des fois un petit peu sur certains points, aussi sur des engagements. Moi, personnellement, je sais que je ne me serais pas autant engagé dans un milieu, enfin dans un lieu, enfin au niveau du travail, si c'était pour le perdre dans 10 ans, quoi, même dans 10 ans. Et donc là, ça nous a vraiment permis d'avoir un peu un boulevard de libre et de dire, la mise aux normes, c'est pour nous, c'est pour les gens qu'on accueille aussi. Et ça permet vraiment, maintenant, je pense qu'on peut être assez heureux et heureuse de l'accueil qu'on va permettre et que les gens puissent venir, toute personne peut venir sur le lieu et être accueillie dignement dessus.
Moi, je pense qu'au début, je suis arrivée, je connais pas mal le milieu squat, du coup j'étais aussi un peu sceptique, j'avais pas suivi toutes ces décisions à la base, mais bon, je suis arrivée et en fait, il y avait déjà une vraie volonté. En tout cas, ce bail emphytéotique, il était signé et ça mettait à l'abri aussi sur pas mal de choses, notamment aussi sur la propriété d'usage et de certains collectifs qui, malheureusement, aujourd'hui, même s'il y a d'autres lieux, la chapelle, c'est un lieu qui perdure dans le temps et qui est très important et qui, en fait, reste un symbole pour tous ces collectifs-là qui n'ont pas forcément d'espace pour s'organiser. Et ça, je l'ai vraiment compris quand on a commencé à faire de l'accueil, que c'est un lieu qui est vraiment clé pour pas mal de collectifs toulousains. Et ensuite, en y réfléchissant, étant donné que... Enfin, j'ai l'impression qu'aussi la promesse d'achat, elle était dans le bail emphytéotique. Elle était là, mais... c'était surtout, on signe le bail emphytéotique et puis on va mettre aux normes et puis on verra bien ce qui se passe, je pense, petit à petit. Et petit à petit, en fait, en y réfléchissant, ça s'est amené vers cette possibilité de rachat. Aussi, le fait qu'on a pu voir que d'autres lieux l'avaient déjà fait. En fait, on n'est pas les seuls, on ne sait pas une nouveauté et ce sera pas la dernière chose. S'inspirer aussi d'autres lieux et surtout pouvoir se dire qu'en fait, on peut faire perdurer cette propriété d'usage et que du coup, ça permet de pérenniser toute cette histoire-là dans le temps et aussi de garder un lieu comme la chapelle à Toulouse pour tous les futurs et toutes les prochaines luttes, qu'elles soient politiques, sociales, de genre. Et ça, je pense que c'était important. Enfin, j'ai l'impression que nous, on le fait pour nous, on le fait parce qu'on aime tous le lieu et qu'on a tous une affinité à partager avec ce lieu, mais on le fait aussi, on le fait pour tout le monde, on le fait pour collectivement ensemble. Et du coup, je pense que c'est aussi ça qui a réussi à me convaincre un petit peu de me dire que oui, ça, on pouvait essayer de le racheter, quoi, qu'on allait peut-être y arriver, quoi.
Et les travaux, vous les avez financés comment?
Oh, c'est très variable. Ça a été beaucoup sur du don, bénévolat. C'est toutes les personnes qui sont venues travailler ont été bénévoles. C'est à peu près vraiment, c'est principalement ça. Après, au début, il y a eu une cagnotte qui avait été faite, qui avait atteint, je ne sais plus, 35 ou 40 000 euros à peu près.
Pour le toit.
Pour le toit, même pour la toiture.
Et après, oui, pour le toit, oui, pardon, pour le toit, yes, mais c'est une autre chose. Et sinon, après, il y a eu un peu de rachat aussi de matériaux qu'on est obligé d'acheter, puisqu'il y a, par exemple, le placo coupe-flamme, on est obligé d'avoir des factures pour ça. Donc ça, on est obligé d'aller en magasin, dire, bon, ben voilà, on a acheté ça et le prouver. Et après, il y a une partie qui a été aussi sur de la récupération. Sur, moi, j'ai quelques contacts, donc on a fait pas mal de récupérations à droite à gauche sur des chantiers. Et on a aussi une association... qui a mis une plateforme qui fait maintenant de la démolition. Et donc voilà. Et par exemple, les toilettes sont quasiment financées que par du don et de la récupération. Et sinon, après, il y a eu juste une chose qui a été faite. C'est le toit le grand toit, ce qu'on appelle le toit haut, qui a 13 mètres de haut. Et donc, on avait un peu peur de mettre des bénévoles là-haut. Et donc, c'est une entreprise, c'est une SCOP locale qui nous l'a faite à un prix un peu amical, puisque plusieurs d'entre eux viennent aussi souvent sur le lieu. Donc voilà, et ça c'était financé par des fondations et des dons de personnes.
Parce que cette mise aux normes, c'est quand même un peu les 12 travaux d'Hercule, quoi. Est-ce qu'on arrive à faire en 5 minutes là une liste globale, un petit peu rapide, de tous les travaux que vous avez dû faire, toutes les difficultés qui ont été levées là dans ces 5 ans? Parce que là on parle d'histoire, de décision, etc., mais voilà, il faut mettre les mains dans le plâtre et il faut y aller. Est-ce qu'on arrive à faire une liste en 5 minutes, là ?
Il y a toutes les toitures qui ont été faites, puisqu'il faut savoir que les toitures fuyaient. Et mettre du placo sur une toiture qui fuit, c'est pas forcément la chose la plus intelligente. Ça, c'était pas demandé dans les normes, mais j'ai poussé pour le faire, pour le coup, pour que le travail ne soit pas à être refait. Il y a le placo coupe-feu avec toutes les isolations coupe-feu avec les portes, les vitraux qui ont été aussi qui ont dû être bloqués puisque c'est des questions aussi coupe-feu, des pièces qui ont dû être réaménagées. Il y a les toilettes qui ont dû être réaménagées pour les personnes, les PMR, ce qu'on appelle les PMR, c'est-à-dire personnes à mobilité réduite. Ça va d'une personne enceinte à en passant par des personnes en fauteuil. Il y a eu l'allée aussi qui a été remise aux normes PMR aussi.
PMR, c'est ?
Personne à mobilité réduite, toujours pareil. C'est une personne avec une poussette, ça peut être une personne avec une poussette, une personne en fauteuil, ça peut être quelqu'un qui boite parce qu'il s'est foulé la cheville. Ça, c'est toute personne qui n'est pas sur ses deux pieds. Voilà. Et donc ça, c'était aussi des travaux qui m'intéressaient beaucoup, puisque c'est quand même l'accueil sur le lieu même pour toutes les personnes. Il y a aussi le bar qui a été refait pour l'accueil des personnes aussi, les PMR principalement, enfin aux normes PMR. Et
sans oublier du coup ce qui séparait la charpente actuelle de la chapelle, il y avait un plancher haut, donc on voyait pas la charpente et tout ça a été cassé. Pour des normes du coup de visibilité de s'il y a un feu, les pompiers doivent pouvoir voir la charpente, mais du coup tout le haut de la chapelle maintenant on voit la charpente apparente, ce qui n'était pas le cas avant. Et dont les 100 ans de crottes de pigeons qui ont bien sûr été évacués en même temps.
Oui.
Puis on a aussi couvert les vitraux, différents vitraux, avec pour limiter. En fait, ça, c'est des normes anti-incendie par rapport au voisinage proche, pour que les vitres des vitraux ne puissent pas exploser. Donc, on les a occultés. Il y a également tout le système électrique qui a été refait par un copain. Et qui électricien
un peu de plomberie aussi.
Il y a de la plomberie qui a été refaite. On a également fait collectivement avec les autres personnes qui ont l'usage du lieu une formation sécurité incendie qui est nécessaire pour la mise aux normes. On a installé des alarmes aussi par rapport aux incendies qui sont des alarmes qui font un bruit hyper fort pour évacuer les lieux en cas de souci.
Et lumineuses aussi.
Les lumineuses. On a aussi changé l'ouverture des portes, de la porte principale. On est en train actuellement, là on recherche une porte coupe-feu. Pour deux tiers, un tiers, pour sortir en issue de secours. Donc c'est quelque chose qu'on cherche à récupérer parce que ça coûte un peu cher, mais donc on fait un appel pour essayer de trouver ce type de porte. Sinon, il faudra qu'on l'achète.
Envoyez-nous un message si vous avez, si vous détendez ce genre de porte ou si vous, vous faites partie de salles de spectacle qui font des travaux, par exemple.
La-8chapelle@riseup.net voilà, en tout cas, ça a pris 5 ans parce que, pourquoi ça, pour, enfin, même plus de 5 ans, hein, ça a pris 8 ans. Pourquoi ? Parce qu'en fait, bah, entre-temps, il y a eu toute la période Covid aussi qui est venue faire une pause quand même dans ces travaux. Et au-delà de ça, il y a eu aussi, on fonctionne au coup de main, aux énergies qu'il y a sur le lieu à l'instant T, au moment où il faut faire. Et ces énergies, elles ont été variables dans toute cette durée-là. Il y a aussi beaucoup, comme le disait Baptiste, pas mal de récupération. De dons qu'il fallait aller chercher sur des chantiers, donc ça voulait dire des déplacements, de s'organiser pour récupérer le matériel, c'est du matériel encombrant, donc il fallait avoir un camion. Enfin, tout ça, ça a été une organisation collective qui prend du temps. Et donc voilà, ça s'est étalé sur autant d'années. Il faut quand même... toute la récup qu'on a faite, je regarde Baptiste, mais je crois qu'il y en a pour au moins 60 000 euros de récupération, plus 80 000 euros, peut-être plus de récupération de matériel. Déjà d'une, parce qu'on n'avait pas le choix, parce qu'on n'avait pas l'argent, mais au-delà de ça aussi, c'est parce que c'était aussi une volonté collective que de favoriser l'économie, comment on dit, circulaire, secondaire, de dons, en tout cas de récupération et de revaloriser en tout cas le matériel pour éviter qu'il soit jeté, et si ça peut nous servir, eh ben, tant mieux. Voilà en gros pourquoi et comment ça a pris autant de temps, tous ces travaux.
Ouais, c'est vite dit, mais c'est plus difficile à faire, quoi. On se fait une petite pause musicale et on revient un petit peu avec la suite de cette affaire. On est toujours sur Brasero, on parle de la chapelle, de son histoire récente et de son rachat.
Silencio, yo te di el silencio para que tú entiendas. I talked too loud, like an old friend that ain't hanging around. When there's quiet, well, I do my best, but I can't stop making this shit up in my head. But that's alright, I think I see the light. Praying, chasing, looking for a reason. Won't you let it go? 'Cause you don't know. Then you take a bow, watch the clouds smile and say, yeah. I've been too many loves, I've been too many tries, too many times losing my mind, thinking about what I said last night. I think you like me better since I lost my. Something about this choir. Come la vida.
No sé si bien o mal, la vida sigue igual. No hay sentido en las palabras de la gente.
Como va la vida.
es la verdad, me cuesta respirar, a veces ya no quiero levantarme.
Voilà, retour à l'antenne et on va revenir à la chapelle et on va revenir même directement dans la chapelle avec un son. Encore une fois, extrait de ce son fait en 2015 par Phaidos Sonore pour Arte Radio. Et on va notamment entendre Julien dans ce son, qui est une personne qui s'est beaucoup investie à la chapelle et qui est décédée en 2018. Parce que la chapelle, c'est ça aussi, c'est des amis qui étaient là, qui n'y sont plus, et c'est des souvenirs qui nous sont chers. Et en tout cas, on entend la chapelle bruisser et les activités se faire.
Attention aux fesses.
L'idée, ça a toujours été de faire un lien entre l'artistique et le militant. C'est-à-dire de faire... la phrase qui revient souvent, c'est que le fond est dans la forme. De prendre au compte autant ce que tu veux dire de la manière dont tu le dis. C'est-à-dire que pour transmettre un message, il faut le rendre audible. Et donc toute l'esthétique du lieu, elle travaillait là-dessus. Elle est réfléchie comme, avec une notion d'accueil. Et ce qui est intéressant, c'est que les premières années, on a eu beaucoup de tensions avec des groupes militants qui, eux, voulaient poser en effet quatre chaises et qui ne voyaient pas l'intérêt de ça, en considérant ça un peu comme bourgeois. Ce qui fait qu'on a cette étiquette de squat bourgeois parce qu'on faisait attention à la forme.
Rebonsoir. C'est juste pour vous dire qu'on va fermer. Oui, mais ça doit arriver un jour, vous le savez. Donc en fait, ce qui va se passer là, c'est que si vous voulez bien, c'est qu'on va doucement ramasser ce qu'il y a sur les tables et commencer à plier la salle tous ensemble. D'accord ? Et juste vous rappeler aussi que cette soirée, elle existe parce qu'elle est autogérée, c'est-à-dire qu'elle est gérée par nous et par vous. Et l'idée, c'est, si ça vous intéresse, tous les dimanches, en fait, on l'organise ensemble. Donc vous êtes les bienvenus, si un de ces jours, un dimanche, vous voulez voir comment ça fonctionne. Voilà. Merci à vous et bonne soirée.
C'est OK pour ranger les chaises ?
Les chaises, tu vas les ranger.
À partir du moment où tu t'inscris dans l'atelier idéal, il y a aussi une attente d'engagement minimum, mais avec aussi ce respect aussi que des gens peuvent aussi se détacher en fait à des moments pour X raisons. On les voit plus, mais pour autant ils peuvent revenir plus tard et ça c'est pas grave.
Il y a un principe qui est dans la charte, c'est que la chapelle est ce que les gens en feront. C'est-à-dire que le groupe qui est aux manettes de la chapelle, c'est à eux de décider ce qu'est la chapelle, en fait. Et ça, alors, c'est choquant, au début, parce que t'as quand même envie que la chapelle reste un lieu alternatif. Mais c'est la confiance que t'accordes aux gens qui suivront. Et en final, cette phrase, je la trouve... plus je vieillis, plus je la trouve juste. Et en effet, la chapelle que moi, je pratique au quotidien, c'est pas... Elle est pas radicalement différente de la chapelle que j'ai connue au début. Mais elle est quand même sensiblement différente.
Ouais, je ne sais pas si vous voulez peut-être réagir sur ce qu'on vient d'entendre.
Ce que dit Julien, en fait, sur la... Là, je vais réagir plutôt sur la fin. On l'a déjà dit un peu après, mais la chapelle, elle est ce que les gens en feront. Et donc, on était bien déjà, sans forcément le nommer comme tel, sur la notion de propriété d'usage qu'on va pouvoir développer. Mais la propriété d'usage, c'est aussi... revendiquer une propriété d'un lieu où l'individu se reconnaît dans l'image qu'il a et qu'il vit et qu'il pratique et qu'il met qu'il concrétise sur le lieu sur lequel il a l'usage. Et forcément, cet usage est relatif à un collectif et c'est pas relatif à un titre de propriété. Ça, je pense, déjà à cette époque-là, c'était déjà en réflexion, sans que ce soit nommé, mais cette question de la chapelle, on a signé un bail emphytéotique, mais en fait, elle continue d'être ce que les gens en feront, et elle continue d'être sur l'usage que les personnes et les collectifs auront sur ce lieu-là. Et quand, effectivement, il y a des nuances par rapport à ce qu'elle était à l'ouverture en 93 et à ce qu'elle est devenue aujourd'hui en 2024. Mais malgré tout, Julien parle de confiance, je parlerai aussi de confiance, mais je parlerai aussi de transmission, de quelque chose qui, d'une base, alors on l'appelle comment on veut, est-ce que c'est des valeurs, est-ce que c'est des principes, est-ce que... Mais il y a une base qui est là, qui se transmet, et qui est le minimum pour continuer à faire perdurer ce lieu sans qu'il y ait d'énormes surprises, et en tout cas en permettant une confiance, une délégation, enfin quelque chose qui se transmet, qui est de l'ordre aussi peut-être de la confiance, de se dire en fait, il n'y aura pas de choses radicalement différentes ou à l'opposé de cette identité qui est là depuis maintenant 30 ans. Je crois que j'ai envie de peut-être préciser ça et je pense que j'ai une grande confiance sur le fait que ce qu'elle sera dans 30 ans, elle sera sensiblement pareille et différente à la fois. Mais pas vraiment radicalement opposé.
Et du coup, ça pose la question, à un moment, il y a quelqu'un qui dit dans le son qui sait qui est aux manettes. Concrètement, ça veut dire quoi, la propriété d'usage et parce que vous avez dit, c'est les gens qui s'y investissent. Comment ça se passe? Comment ça se passe, l'autogestion de la chapelle? Et comment ça va continuer à se passer?
Bah en fait, là, pour le moment, il y a un propriétaire actuellement qui est encore la mairie. Par la suite, ça sera différent. Ça sera un collectif de collectifs. Donc, ça ne sera pas une propriété en nom propre. Et actuellement, on est dans la réflexion de la séparation de ce qu'on appelle une propriété privée avec la propriété d'usage. C'est vraiment que les usagers, son nom indique ça vraiment, c'est que les usagers utilisent le lieu tel qu'ils l'entendent l'utiliser, purement. Et donc actuellement, l'usage du lieu se fait principalement par 4 associations, qui sont le kiosque, qui est une librairie, une AMAP, et la dérive jubilatoire, qui est un groupe de discussion, et l'AI, qui fait plus l'atelier idéal, pardon, qui fait plus la gestion commune, on va dire, c'est-à-dire payer les factures d'électricité, d'eau, et faire aussi les accueils des collectifs qui viennent sur le lieu. Et donc, on est sur cette réflexion de séparer la propriété à l'usage.
Ouais, vas-y.
C'était juste pour compléter ce que disait Baptiste, c'est qu'effectivement, il y a 4 collectifs usagers permanents de ce lieu. Et après, on est du coup en réflexion pour formaliser un peu ces pratiques-là et formaliser par écrit. On a créé l'association La Chapelle pour signer les papiers, donc signer le bail emphytéotique. Et c'est cette association qui va signer l'acte de rachat au moment où on lèvera l'option d'achat. Cette association, La Chapelle, au moment où elle s'est créée, elle a été composée de 7 personnes individus qui connaissent le lieu, qui sont des anciennes personnes qui ont connu l'atelier idéal notamment, parce qu'il fallait créer cet asso de manière assez rapide pour signer le bail emphytéotique. Aujourd'hui, on est sur enlever ces individualités pour insuffler une composition de l'asso qui soit composée uniquement d'associations ou de collectifs qui sont usagers permanents du lieu. Donc l'idée, c'est d'intégrer l'atelier idéal, le kiosque, la dérive jubilatoire et également une association de personnes qui ont fait partie du lieu mais qui n'en font plus partie ou qui le connaissent depuis longtemps. On a pensé 3 scénarios actuellement qui sont en réflexion et qui permettent d'intégrer tous ces collectifs. Et dans tous les scénarios, les individus qui sont membres actuels de cette association-là n'existent plus. Donc ça veut dire que soit on crée une association de collectifs usagers du lieu qui intégrerait les 4 collectifs qui sont présents actuellement, plus une autre association qui aurait pour vocation uniquement de gérer un droit de veto sur le transfert de titres de propriété. L'idée pour nous, c'est de préserver le lieu de la chapelle, de la spéculation immobilière en supprimant le fait qu'elle puisse être revendue à un moment donné dans son histoire, mais également qu'elle puisse être fragilisée par des égos humains qui peuvent être inhérents à tout collectif et qui viendraient mettre en danger cette propriété physique du lieu. Donc c'est pour ça qu'on va distinguer une sorte de... Dans l'association La Chapelle, il y aurait des sortes de copropriétaires, un peu, avec les associations usagères du lieu et des associations qu'on va appeler des associations de veille qui vont être là pour poser un droit de veto systématique au transfert de propriété du lieu. Ce qui veut dire qu'en fait, toute cette campagne de rachat collectif, elle est aussi basée sur ces principes-là, c'est-à-dire qu'on garantit le fait que tous les dons récoltés vont bien servir au rachat du lieu, et ce lieu-là, au moment où il est racheté, il est à tout le monde, en fait. Et donc, à aucun moment, un individu ou un collectif ne peut mettre en danger ce lieu par le transfert de propriété, et on est en train de baliser les choses juridiquement pour que ce transfert ne soit plus possible à partir du moment où le lieu est acheté au nom de l'association La Chapelle.
Oui, il faut voir un peu ce rachat et ce dispositif comme une béquille, parce que tant qu'on n'aura pas un peu cramé la propriété privée ou aboli ça en France, eh ben la loi ne permet pas non plus de faire des propriétés collectives. Et en fait, ce système-là, ça permet vraiment d'arriver, de se rapprocher le plus possible de certaines idées, tout en restant et tout en ayant un cadre qui soit un peu légaliste, on va dire, en France, qui permettait de protéger ce lieu-là de l'accaparement extérieur par des sociétés extérieures immobilières ou autres.
Ou même à l'intérieur. Et du coup, l'idée pour ça, c'est qu'en fait, on essaye le plus possible de pas prendre le risque qu'il y ait des notions de pouvoir qui se posent, puisque qui dit titre de propriété dit une notion de pouvoir qui peut être un peu plus revendiquée ou un peu plus importante. Et c'est pour ça aussi qu'on regarde les statuts d'autres lieux, tels que la chapelle, c'est-à-dire que quand on se base sur ça et qu'on a des réflexions communes, en fait, on essaye aussi de récupérer les statuts d'autres lieux, avoir un petit peu les retours de comment ça peut se passer dans d'autres lieux de France qui ont pratiqué et qui ont eux-mêmes, en fait, c'est un peu une réflexion collective entre nous et entre plein de personnes du coup qui font vivre la chapelle et qui connaissent la chapelle, mais aussi plein d'autres lieux en France et ailleurs qui ont pratiqué ces choses-là avant nous et du coup essayer de bien on va dire blinder ça pour qu'on puisse se sentir tous et toutes le plus serein et sereine possible dans ce lieu, et juste profiter aussi de sa propriété d'usage et ne pas être confronté à ce genre de reprise du coup de titre de propriété, quoi.
Du coup, si j'essaye de résumer ce que j'ai compris, il y a une sorte de d'un côté une association La Chapelle qui serait montée comme une espèce d'usine à gaz avec plein d'associations dedans, plus des associations qui empêcheraient les associations de pouvoir récupérer le lieu. Donc ça serait la propriété privée, elle serait dans cette espèce d'indivision insolvable, quoi, je veux dire, où personne ne pourrait rien décider de la vente, quoi. Et c'est une sorte de propriété fictive au final, parce que personne ne pourrait rien faire de cette propriété, il n'y aurait pas d'usus, il n'y aurait pas d'abusus, il n'y aurait rien, quoi. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui organiseraient des choses à la chapelle, donc ils sont aussi ces associations-là, mais qui ne seraient pas non plus en droit de dire « c'est chez moi, voilà, je fais ce que je veux ».
Alors, sur les usages du lieu, parce que ça viendra en contradiction avec ce qu'on a dit avant, que la chapelle existe par l'usage qu'on en fait. Mais en fait, oui, la chapelle existe par l'usage qu'on en fait, mais elle ne peut pas... ces usages-là ne peuvent pas venir mettre en danger l'outil physique de la chapelle. On a toujours considéré, en tout cas à l'Atelier Idéal, et je pense que les autres collectifs aussi, la chapelle comme un outil de lutte. C'est un espace physique qu'on met à disposition des collectifs, des projets, des événements, des soirées divers et variées. Et cet espace-là, ça ne peut pas être la seule propriété des collectifs usagers permanents du lieu. Et c'est bien ça qu'on souhaite préserver, c'est-à-dire qu'en fait, la propriété physique du lieu ne doit pas être fragilisée parce que il y aurait un collectif ou des collectifs usagers du lieu qui viendraient remettre en question ou qui viendraient remettre en question cette propriété physique du lieu, en fait. La chapelle, dans la campagne, je crois qu'il y a une vidéo qui date un peu de la première campagne où on parlait du rachat collectif, qui disait la chapelle, elle est à tout le monde et à personne à la fois. Et je crois que c'est ça qu'on a envie. Alors, toi, tu le nommes pas comme une usine à gaz, mais effectivement, une usine à gaz, ça pourrait faire peur, mais en fait... Une usine à gaz, c'est aussi un moyen de protéger sur un pouvoir d'individu ou sur un pouvoir d'individu ou de collectif qui viendrait mettre à mal cette propriété physique qu'on a mis tant de temps à obtenir finalement et qu'on travaille pour faire en sorte que cette propriété physique ne soit pas le seul attribut d'individualité ou de collectif qui prendrait le pouvoir sur le lieu. C'est pas l'objet.
Il y avait un bar à Valencia, en Espagne, qui avait été acheté par un comité ouvrier, etc., et qui avait scellé les droits de propriété dans les fondations du bar, avec un peu ce même esprit d'enfermer comme ça le mal à l'intérieur et que ça soit l'usage qui fonctionne. Et je trouve que quand il y a eu ces moments, alors la décision de la lutte, etc., et la décision de signer, etc., il y a eu cette pratique qui s'est faite à la chapelle de faire des assemblées, de faire venir des gens qui sont intéressés pour discuter, etc. Et je trouve que ça marque bien cette volonté à un moment du lieu de rester ouvert à l'extérieur. Il ne s'est pas produit ce qui se produit parfois dans certains endroits. Les gens qui sont sur place en font leur bébé. Et pour moi, il y a quand même de l'extérieur ce sentiment qu'il y a quelque chose qui a... surtout que la chapelle, quand même, quand elle était un squat, disait qu'elle n'était pas un squat, mais une occupation. Et je trouve que depuis qu'elle est légalisée, elle ressemble vachement plus à un squat qu'avant. Moi, j'aime bien, je préfère. Et voilà. C'est une réflexion.
Oui, d'ailleurs, donc la réflexion qu'on est en train de faire sur les statuts, sur toutes ces choses-là qu'on essaye de poser, bien sûr, il y a un groupe de travail de personnes qui se portent volontaires et qui ont envie de réfléchir à ces questions-là, d'aller voir ailleurs et tout ça, mais en fait, c'est pas du tout inhérent à un seul collectif ou par exemple à l'atelier idéal. L'idée, c'est que c'est en fait, et aussi toute cette campagne de rachat et toute cette réflexion, il y a plein de personnes qui l'apportent, il y a plein de copaines et d'amis qui ont mis énormément de cœur et de temps et d'efforts, du coup, pour que petit à petit ça a lieu, et c'est énormément de travail et de réflexion, et du coup ça c'est bien de le saluer. Et je pense que il y a plein de personnes, que ce soit qui connaissent très bien l'histoire de la chapelle d'avant ou même des personnes de maintenant, et ça regroupe un peu toute son histoire finalement, et je pense que toutes les personnes ont envie de voir au futur que ça puisse se passer le mieux possible, et du coup il y a eu vraiment un grand collectif de personnes qui s'y tâchent, enfin qui portent ça.
Eh ben, on allait demander justement à plein de gens pourquoi est-ce qu'il faut racheter la chapelle, et on vous propose d'écouter leurs réponses.
Acheter la chapelle, c'est ça qu'on veut faire, bisous.
Parce que c'est un bon investissement.
On doit absolument racheter la chapelle,
c'est
pour
un peu comme
pouvoir continuer à avoir
des
un
dessins
lieu
animés qui
en plein centre-ville de Toulouse.
Toute petite de l'extérieur, mais énorme à l'intérieur.
Parce que ça fait longtemps qu'il s'y passe des...
Où on peut faire entrer
des événements collectifs,
plein de personnes différentes,
importants,
des animaux réels ou
un
fantastiques,
en plein centre-ville,
et plein de mondes proches ou lointains.
Je trouve que c'est un lieu
qu'on a envie d'habiter,
assez magique, à personne et un petit peu à tout le monde, qu'on sait ranger ou ranger les chaises, qu'on sait
tout
maintenant
les mouvements,
allumer les lumières à l'intérieur,
les collectifs. plus ou moins éphémères qui...
On a besoin de lieux pour se retrouver.
Qui se retrouvent ben, dans ce lieu pour construire, réfléchir, discuter, travailler,
créer, lutter ensemble.
Présenter des idées.
On a joué à
faire la fête, faire des spectacles, jouer des conneries, faire rire et pleurer ensemble. C'est un lieu précieux.
Ça serait vraiment triste que ça devienne un immeuble pour bourgeois.
C'est un lieu historique où on a vécu trop de choses, on ne peut pas le lâcher.
Continuer une histoire de lutte, une histoire d'engagement politique, de réflexion, d'organisation.
C'est compliqué de plus en plus de,
radical,
d'avoir des trucs qui nous font ciment.
On a besoin de lieux.
On manque de lieux collectifs dans la vie.
Ou se rencontrer, ou croiser des luttes.
Parce que c'est la guerre contre les squats à Toulouse et sûrement partout.
Une propriété collective qui nous appartient. Ça permettrait de continuer.
C'est aussi ça la chapelle, c'est un endroit qui croise beaucoup, beaucoup de luttes.
De manière très pratique, quand on veut pouvoir compter sur un lieu, c'est toujours difficile au vu de comment la bourse du travail.
Pendant les mouvements sociaux, on n'a pas forcément la bourse du travail pour faire des assemblées de lutte.
Ou en tout cas à laquelle on peut accéder de manière. Parfois arbitraire.
Et que c'est possible, toujours possible de venir à la chapelle.
L'espace public est presque inaccessible. Il faut bien trouver des lieux.
Et donc avoir
pour résister.
Un autre lieu assez central, en n'ayant pas de grands délais pour l'obtenir.
C'est rassurant de se dire qu'un lieu qui brasse plein de gens puisse être
pérenne. Parce que c'est quand même super, un bâtiment religieux qui devient un lieu anarchiste. Pour toujours, quoi.
Parce que ça fait expérimenter une sorte de propriété collective à beaucoup.
En tout cas, tant que nous n'avons pas aboli la
Que ça enlève la chapelle du monde de la spéculation immobilière, et ça fait plaisir.
On doit tous s'y mettre pour que ça
coup,
tienne.
Du coup, il faut acheter la chapelle.
Voilà.
Et donc, très très pratiquement, pour que ce lieu perdure à tout jamais, en étant un lieu ouvert à tous et tout ce qu'on vient d'entendre, comment ça se passe, combien il faut trouver et comment on fait pour donner surtout.
Du coup, on a donc la promesse de rachat collectif qui est placée à 100 000 euros. Donc c'est ce qui a été écrit dans ce qu'on disait tout à l'heure, le bail emphytéotique. À ça, il faut ajouter 10 000 euros de frais de notaire parce que on sait que voilà, c'est les 10% plus 10 000 euros de commissaire au compte, puisqu'actuellement on a un fonds de dotation qui du coup reçoit du coup toutes les promesses de dons. Donc là c'est notre premier palier qui fait partie du coup de la cagnotte et l'OASO qu'on a lancé le 2 octobre. Donc là ça fait un peu moins d'un mois, on a environ 56-57 000 euros actuellement, donc on est presque à 50% de notre palier de 20 000, et on a rajouté 30 000 du coup à ces 20 000 qui fait du coup le deuxième palier. Ça c'est plus, donc il va y avoir de l'entretien de l'équipement, on parle du coup d'entretien d'alarme incendie, donc c'est des gros équipements. On parle aussi d'un défibrillateur qu'il va falloir mettre, vu que du coup on doit être aux normes d'accueil du public, donc il y a un certain nombre d'équipements qu'il va falloir entretenir, plus peut-être renouveler certains des équipements son et lumière qui commencent à être un petit peu vieux dans le temps, bien sûr. Mais voilà, c'est pour l'instant, on peut dire qu'on est à peu près à 50% de ce dont on a besoin, et puis on espère qu'on va y arriver. Il reste à peu près encore un mois du coup de cagnotte collective sur Hello Asso. Ce qu'il faut savoir, c'est que les dons sont défiscalisables. C'est-à-dire que si vous payez des impôts, au lieu de les donner à l'État, vous pouvez les donner un peu à la chapelle. Du coup, par exemple, si vous donnez 200 euros, en soi, l'année prochaine, on va vous redonner, du coup, vous aurez payé que 66 euros. Donc ça, c'est intéressant à savoir pour les personnes qui payent des impôts. Et voilà, on espère...
Oui, on espère y arriver. On est au moins le premier palier des 120 000 euros qui sont nécessaires pour lever l'option de rachat. Et comme le disait Clara, il y a une cagnotte en ligne via la plateforme Hello Asso. En fait, dès qu'on fait un don de manière automatique, ça transmet un reçu fiscal qui est nécessaire pour prouver lors de la déclaration d'impôt qu'on a bien fait ce don. Et le fonds de dotation, c'est une entité juridique qu'on a créée et qui est d'office d'intérêt général, qui est reconnue d'intérêt général, et que toute cette campagne de don sera vérifiée de manière obligatoire par un commissaire aux comptes. Donc au niveau argent, on est transparent au niveau du suivi des dons et de leur finalité. Donc l'idée, c'est quand même de partager un maximum dans son réseau familial, dans son réseau amical, et que chaque personne, on leur demande de partager aussi dans son propre réseau. L'idée, c'est de faire quand même une grosse toile d'araignée sur toute la France, voire plus, pour essayer d'arriver à obtenir les 70 000 euros là, qui nous manquent pour atteindre ce premier palier qui nous est nécessaire. On y croit parce que ça fait déjà 57 000 euros en un mois. Il faut doubler cette somme et il nous reste un bon mois. Jusqu'au 15 décembre, on a décidé de laisser ouvert cette cagnotte et on fera un point un peu avant le 15 décembre pour un peu tenir informé toutes les personnes de là où on se trouve dans cette campagne de rachat.
Alors donc, il faut aller sur la plateforme LOSO pour donner de l'argent, on peut avoir un rescrit fiscal, et aussi, on insistait là-dessus hors antenne, faire circuler, parce que les 300 premières personnes, on va dire c'est les 300, c'est le premier cercle, peut-être le deuxième de la chapelle, mais je crois que j'ai vu plus de monde à la chapelle que 300 personnes, et qu'il faut agrandir ce réseau, et donc faire circuler autant que possible, écrire à mamie, écrire au tonton, écrire à tous les réseaux, sur Copain d'avant, ça existe encore, Copain d'avant
Je crois, oui.
Etc. quoi.
Alors, on va mettre évidemment le lien sur notre page de Brasero, mais peut-être vous pouvez dire si, parce que là on dit Hello Asso, mais peut-être qu'il y a une page web, une manière d'y arriver directement.
On a un Facebook, un Insta, et normalement par le site de La Chapelle, s'il est fonctionnel. Qui est La Chapelle Toulouse. Vous tapez sur Google.
LaChapelleToulouse.com.
Voilà.
Et puis, on peut aussi aller à La Chapelle. C'est ça qui est pratique. Et en plus, il y a une espèce de petit redémarrage avec la relâche. Donc, ces fameux lundis de la relâche, fameux, légendaires, qui repartent. La relâche se relâche, se reprend et recommence. Et moi, je me suis laissé dire que c'était la semaine prochaine, quoi. Que ça y est. Hein, c'est les beaux jours, on y va, il va faire bon à La Chapelle. Comme d'habitude, on sait bien que le meilleur hiver, il se passe à La Chapelle, c'est bien connu. Vous avez mis du chauffage ?
Non.
Absolument.
On se chauffera tous ensemble.
Ben merci.
Merci à vous.
Merci à vous.
Et il y aura une session ce week-end aussi de rangement du lieu.
Oui. Vous pouvez venir ranger, il y a plein de choses à faire et 2-3 petits travaux de bricole aussi. Du coup, on peut se donner rendez-vous par exemple un samedi à 11h et un dimanche aussi à 11h parce qu'il y a du pain sur la planche pour pouvoir du coup espérer réouvrir un peu le lieu en novembre.
Voilà, et si vous écoutez cette émission en différé, on parle du samedi 3 novembre, non, du samedi 2 novembre et du dimanche 3 novembre et du lundi de relâche qui est le 5 novembre. Mais attention, la relâche, c'est après l'effort et l'effort, c'est le 2 et le 3 et le 4. Et oui, après le 3, c'est le 4. Bravo. Merci. Voilà, ça suit à la technique. Merci la technique. Merci à tout le monde. C'était Brasero 92.2 et c'était Canal Sud et bravo.